Donc, comme j'ai prêché pour quelques minutes déjà pendant le match, je vais essayer de faire plutôt court cet après-midi. La dernière fois, en fait, que j'ai donné une conférence en Belgique, c'était à Herstal Liège et une dame a tombé dans les pommes pendant la présentation et même les secours, les infirmières étaient après, une ambulance et tout. Donc j'espère que ça passe mieux cet après-midi et je vais essayer donc d'être plus court et peut-être plus intéressante que la dernière fois à Herstal. Donc beaucoup de vous, entre vous, connaissez assez bien la Fraternité Saint-Pierre avec la présence de M. l'abbé Igonet et aussi ceux qui prient beaucoup pour la Fraternité Saint-Pierre en tant que membre de la confraternité. Donc je vais peut-être plutôt vous donner un peu les chiffres de où nous sommes dans une manière. Mais premièrement, simplement de parler de le charisme, comme on dit aujourd'hui, ou de la particularité de la Fraternité Saint-Pierre. Comme beaucoup d'entre vous connaissez bien, on a une certaine double fondation. Donc il y avait avant la Fraternité Saint-Pierre, il y avait eu la Fraternité Saint-Denis, qui était fondée par Monseigneur Lefebvre, et qui était fondée pendant une certaine période de crise dans l'Église. Et la Fraternité Saint-Pierre, nos fondateurs, ils ont toujours dit qu'ils ont voulu garder le pars senior, donc c'est-à-dire la partie saine de la Fraternité Saint-Pilice, c'est-à-dire cet attachement, de garder cet attachement avec le Saint-Père, mais de garder les autres aspects, la défense de la vérité des dogmes, et aussi, évidemment, aussi le messe, qu'on est surtout connu pour le rite de 62, ou le messe traditionnel, ou maintenant, ce qu'on appelle la forme extraordinaire. Donc, je pense qu'une des choses qui est importante est que chaque communauté, quand il est fondé pour une raison spécifique connue par le bon Dieu dans la Providence, mais aussi en réaction, on peut dire, à une situation qui est actuelle dans l'Église. Donc, quand on pense des Dominicains et leur spécificité, on pense à ce côté intellectuel, les débats avec les hérétiques, à cette époque, qu'ils ont guidé un peu les Dominicains pendant tous les siècles qu'ils ont suivis. La même chose avec les Franciscains, c'était un moment important de l'Église de montrer cette pauvreté radicale qui était celui de notre Seigneur et que ça soit incarné dans les Franciscains. La Fraternité Saint-Pierre était surtout fondée pendant une période où l'identité sacerdotale était pratiquement éteinte dans l'Église actuelle. Cet sens de qu'est-ce que c'est le prêtre et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, qu'est-ce que c'est son vrai raison d'être, était très obscur pour beaucoup de gens à cette époque. Et donc, la première chose qui est importante pour la Fraternité Saint-Pierre est que chaque prêtre doit avoir une spiritualité où la messe est au centre de sa vie. Donc, ça, on peut dire, ça doit être le cas pour chaque prêtre dans le monde entier. C'est évident que ça doit être au centre de sa vie. Mais pour nous, c'est vraiment pour cette prêtre et chaque prêtre de continuer de développer cette spiritualité lui-même et donc de voir toute sa vie autour de cet acte qu'il a à l'autel. Donc, premièrement, de voir que le messe, c'est la chose la plus importante qu'il fait avec toute sa journée. Donc, même s'il fait 1000 autres choses et il y a 10 heures qui sont dédiées à d'autres travails, la première chose qui est la plus importante pour l'Église qu'il va se faire cette journée, c'est son messe privée. Moi, je dis la messe pratiquement chaque jour avec aucune fidèle présente. Moi, je le dis tôt le matin avant d'aller dans les bureaux et tout ça. Et pour moi, ça doit être vraiment le moment où je dis, si je fais que ça aujourd'hui, j'ai déjà fait énormément pour l'Église. Et après, c'est pour cette prête, évidemment, comme pour les fidèles, et c'est quelque chose qu'on va essayer de donner aux fidèles aussi, c'est de porter cette messe dans notre journée. Donc, ça veut dire que si je dis que c'est cette identification avec le Christ dans le Saint-Sacrifice de la messe qui est important pour moi, je dois être capable d'accepter toutes les petites croix qui viennent pendant ma journée. Donc, le prêtre qui me téléphone, qui me rend beaucoup de difficultés et tout ça, ça, je décroche et je dis, mais ça, c'est une participation de l'acte central de ma vie qui est le plus important. Et donc, cette spiritualité pour nous est très importante pour les prêtres, bah, évidemment, parce que c'est une spiritualité qui me tourne directement toujours à l'essentiel de mon existence, parce que je suis prêtre pour toujours. Mais c'est aussi pour vivre, on espère, tous en tant que des prêtres, pour donner cette idée aux fidèles et aussi à des autres prêtres. Donc, Une des choses qui était très importante dans ces dernières années, surtout depuis ce moment pontificum, c'était l'enseignement de la messe, du rite, aux autres prêtres, aux prêtres diocésains, à des autres ordres religieux et tout ça. Et souvent, c'est pas, on peut penser que voilà, il faut apprendre l'ancienne messe comme ça, on met ses mains comme ça, maintenant vous êtes comme ça, mais c'est de comprendre en fait le pourquoi, évidemment, de la théologie et de la spiritualité qui est derrière chaque geste. Et c'est notre fondateur fondamental, donc l'abbé Bissi, qui est notre recteur du séminaire maintenant aux États-Unis. Et on a eu une centaine, peut-être 150 prêtres qui sont venus pendant une semaine pour apprendre de dire l'ancienne messe au séminaire. Et il a dit que la réaction est incroyable parmi les prêtres qui viennent. Il a dit qu'il y a des prêtres qui pleurent à la fin des 5 jours ou après le 3e jour, et des prêtres qui ont dit à lui, mais moi j'ai le sentiment que quelque chose qui était le droit, mon droit, que j'ai dû avoir, ce trésor, cette connaissance de qu'est-ce que je fais en tant que prêtre, j'ai jamais appris au séminaire. J'ai jamais eu cette idée que cette sacrifice que c'est le sacrifice que j'offre, et c'est ça qui est l'essentiel de ma vie sacerdotale. Donc ça peut être quelque chose un peu, voilà, chaque prêtre doit connaître que le sacrifice est au centre de sa vie, mais en fait c'est une réalité qui manque énormément dans la mentalité, malheureusement, dans l'Église d'aujourd'hui. Et donc c'est un élément qui est vraiment essentiel. Autour de cet aspect de notre spiritualité, on parle souvent des trois piliers. J'ai parlé un peu dans une manière indirecte dans le sermon d'aujourd'hui aussi. Mais cette même idée de crise dans l'Église et comment on doit répondre à cette crise qui existe. Et donc, il y a le côté d'enseignement, c'est d'essayer de voir des choses pour vous enseigner des vérités catholiques en morale, en dogme, et pour être capable de défendre toutes ces vérités dans beaucoup d'instances différentes, parfois avec les protestants, souvent avec les gens qui sont athées, parfois avec les gens qui sont des musulmans. On a tout type de discussions qu'on peut engager avec les gens d'aujourd'hui. Et donc, vous avez des outils qui sont nécessaires pour donner cette réponse. Et pour la Fraternité Saint-Pierre, donc cette réponse vient surtout de la philosophie, des bases, de cette philosophie pérenne de Saint Thomas, où on pense que vraiment la réponse pour l'homme aujourd'hui viennent de ces choses et qu'on ne doit pas avoir peur de cet enseignement de l'Église qui donne finalement les réponses qui sont nécessaires, où la lumière va vraiment être là pour la personne qui est devant vous, même s'il est athée. Bon, je pense souvent, par exemple, de cet exemple de péché originel, qu'il y a beaucoup de prêtres et parfois des évêques qui ont très peur de cet enseignement de péché originel, que quand on pense que c'est le péché originel, que tout le monde reconnaît toujours. Chaque homme, il reconnaît au fond de lui-même qu'il y a des fois qu'il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Que c'est une expérience même. Si on n'a plus une base, une fondation de apologétique, qu'il soit de la Bible ou autre chose, au moins on a toujours ce sentiment que parfois je fais des choses que je ne dois pas faire, qui ne sont pas bien pour moi. Je bois trop, il y a des gens avec des addictions, des choses comme ça, qui nous laisse en fait une porte d'entrée. C'est-à-dire non, l'enseignement de l'Église sur cette point est très clair et ça va avec votre expérience quotidienne et vos difficultés qui sont là, et que c'est que l'Église qui va vous donner la réponse juste, que la nature humaine est quelque chose de bien, de bon, mais qui est aussi blessé, malheureusement. La deuxième chose qui est là est évidemment la messe, et je dis ça un peu en sermon aujourd'hui. On est convaincu que le simple catéchisme ou l'enseignement de l'Église n'est pas assez pour avoir vraiment une fondation qui est nécessaire. Il faut avoir aussi cette liturgie qui est saine pour notre formation. Je dis souvent qu'un prêtre qui dit la messe d'une première communion et qui donne une prédication qui est parfaite sur la présence réelle, et il parle parfaitement sur toutes les grâces qui sont données par le Saint-Eucharistie, s'il revient à l'autel et il traite les saintes espèces plutôt comme le pain que comme la présence réelle, il ne va pas donner cet enseignement. C'est-à-dire qu'on peut voir tous ici dans une manière intellectuelle, mais pas la formation, parce qu'on est formé toujours par la liturgie. Donc, en fait, je donne souvent cet exemple aussi que quand j'étais en paroisse à Sacramento, il y avait, j'imagine que ça existe en Belgique aussi, mais les enfants, surtout les jeunes garçons de 16 ans, de 5 ans, ils veulent souvent montrer aux prêtres qui viennent pour dîner à la maison la manière qu'ils disent la messe eux-mêmes. Donc, ils jouent la messe. Donc, j'étais dans une famille avec une enfant, un garçon de 5 ans ou 6 ans. Donc, il a mis sa sœur à la piano pour jouer l'orgue. Il a mis son frère comme servant-messe là. Et sa mère était obligée de fabriquer toutes les choses pour lui, une chasuble et tout ça. Et là, il était au cheminée comme ça. Et il a monté le petit, c'était un bonbon qui a remplacé évidemment l'hostie. Mais après qu'il a élevé le bonbon comme ça, il a resté comme ça. Et pendant tout le reste, bon, c'était pas très long, c'était 5 minutes, mais jusqu'au moment que son frère a lavé ses doigts, il a gardé ses doigts comme ça. Et je me suis dit, bah, cet garçon, il vient à la paroisse et chaque dimanche depuis 4 ans. Donc, il m'a entendu en prédication 200 fois, au minimum. Et je pense que si je le demande aujourd'hui, le contenu ou une seule phrase d'un de mes sermons, il n'a aucune réflexion de tout ce que j'ai dit à lui pendant peut-être 20 ans de sa vie. Voilà. Mais le fait que j'ai fait ce geste comme ça, il va retenir pendant toute sa vie que chaque parcelle est Dieu, que c'est la chose la plus précieuse et qu'on ne doit jamais mettre les doigts comme ça parce que c'est notre Seigneur. Et donc, quand on parle de le fait de l'importance de la liturgie, c'est pas seulement qu'on prie Dieu, c'est parce qu'on est faible. Moi, je dis très souvent, on n'assiste pas à l'ancienne messe parce qu'on est les meilleurs. On assiste à l'ancienne messe parce qu'on est les pires des chrétiens. On est le plus faible. Et donc, c'est nous qui avons besoin, en fait, de tous ces signes et toutes ces prières qui va nous soutenir. Donc, moi, quand j'ai fait le choix, on peut dire sacerdotal, d'aller dans une diocèse ou dans la fraternité Saint-Pierre, je pense que la première question est, est-ce que vous pouvez faire autrement? Et je me suis dit, non, j'ai besoin de tout ce soutien qui est là, qu'on trouve dans la liturgie qui doit nous former. La troisième chose qui est là est notre attachement au Saint-Père et au Saint-Siège, qui est quelque chose de très important pour la fraternité Saint-Pierre. On était quand même fondé dans cette question de crise quand Mgr Lefebvre a décidé de consacrer des évêques contre la permission du pape. Et donc pour nous, cette idée de former des fidèles avec une fidélité et en même temps avec une bonne compréhension du magistère de l'Église est quelque chose de vraiment important. Et on voit ça dans la confusion qui existe dans l'Église et avec toutes les questions qui viennent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut croire? Comment est-ce qu'on peut critiquer le contenu d'un document et en même temps rester fidèle au Saint-Père? Dans quelle manière est-ce qu'on peut le faire? Et cette idée pour nous est quelque chose de primordial parce que ça, et c'est aussi une question d'autorité, d'hiérarchie qui appartient à l'Église comme l'enseignement et comme les sacrements. C'est une des trois choses qui existent dans l'Église aussi, cette manière de voir la hiérarchie. Et donc, pour nous, c'est très important aussi de former les fidèles dans cette manière et de ne pas avoir peur de la situation actuelle qui est dans l'Église. Moi, je viens d'un pays, Minnesota, qui est un peu comme l'Estonie, donc où il fait très, très froid. Et je me souviens souvent, en hiver, ma mère m'a dit, « Dehors, vous allez jouer dans la neige pendant 2-3 heures, j'ai eu assez de vous, allez dehors. » Et on était tous mis dehors, mais avec des bonnets ou deux ou trois, et avec des gants, avec des pantalons pour nous protéger et tout ça. Et je pense que c'est un peu comme ça dans l'Église, comme une analogie aujourd'hui. Il ne faut pas dire qu'on est dans le printemps de l'Église, ou qu'il fait beau, ou que tout est parfait et splendide, et il n'y a pas de problème, ça marche excellent, il n'y a pas de confusion, parce que ce n'est pas vrai. Mais il ne faut pas avoir peur quand c'est l'hiver. On doit être bien protégé, on doit mettre tout ce qui est nécessaire, mais on doit aller jouer dans la neige. On doit être capable de dire, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai confiance en l'Église de notre Seigneur, et je suis prêt d'agir dans cette situation comme il y a. Donc pour nous, c'est vraiment, et j'espère aussi pour nos fidèles, c'est de jamais rire quand ça va mal dans l'Église. C'est facile, je pense, pour nous de faire des blagues parfois sur telle situation, ou vaincre, ou autre chose. Mais c'est vraiment de souffrir avec l'Église quand elle est dans une période aussi de souffrance et de donner cette formation aussi aux fidèles. Donc, ça, c'est les éléments qui sont importants pour nos prêtres, j'espère. Et j'espère aussi donc qu'on est capable de communiquer dans une manière réelle à nos fidèles aussi. Donc, actuellement, aujourd'hui, la Fraternité Saint-Pierre travaille dans beaucoup de domaines très très différents et dans des situations énormément différentes. La situation ici à Bruxelles n'est pas du tout comme la situation dans des autres endroits. Et en Europe, c'est très différent qu'en Nigeria ou qu'en Colombie ou en Australie ou en Amérique du Nord. Mais dans chaque situation, je pense qu'on trouve en fait cet enseignement et cette manière de créer un apostolat envers les fidèles qui va leur aider dans ces trois domaines. Donc actuellement, nous sommes maintenant pratiquement 300 prêtres dans la Fraternité Saint-Pierre qui travaillent dans tous les continents, sauf on est rarement en Asie, on a quelque chose à Hong Kong où on est depuis l'Australie de temps en temps. Mais autrement, on est surtout présents en Europe, évidemment ici, en Allemagne, en France surtout, avec des petites implantations dans les autres pays aussi, et surtout maintenant aussi en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis. Donc là-bas, et bon, c'était bien de voir la présentation de tous les pays, parce qu'une des choses qui est intéressante avec la Fraternité Saint-Pierre, et on était nés aussi dans une manière internationale. Donc nos fondateurs viennent de partout un peu, et donc c'est une de nos forces, je pense, aussi, dans une manière. Parce que autant que tel pays, chaque pays, a un caractère un peu différent et des choses qui vont être accentuées dans leur manière de faire les choses, il y a aussi ça dans la Fraternité Saint-Pierre. Donc en Amérique du Nord, on est beaucoup plus pragmatique. Donc quand je vois un évêque aux États-Unis et je demande si on peut commencer une paroisse, la seule question qu'il va me poser est qui va payer. Donc, et quand je dis nos paroissiens vont payer, il va dire allez acheter quelque chose et commencer et faire comme vous voulez. Donc, c'est pas ici en Europe, c'est souvent plus difficile. On n'a pas du tout souvent la même situation et je pense qu'il nous faut aussi nos prêtres qui soient courageux, on fasse souvent des difficultés, mais les fidèles aussi. Et je pense qu'il ne faut pas être découragé par la résistance qui est souvent là, parce que les fruits sont toujours portés, évidemment, par le bon Dieu. C'est pourquoi aussi, pour terminer, je vous remercie aussi pour votre soutien aussi de l'abbé Igoné pendant toutes ces années ici à Bruxelles et en Benelux et en Belgique. Comme vous savez, le terrain n'est pas, c'est pas évident, c'est pas toujours le plus facile. Et encore, j'ai parlé de tous les éléments de la Fraternité Saint-Pierre, sauf la vie commune, qui est que nos prêtres sont normalement appelés en vie commune, et où ils vivent deux ou trois ou quatre ensemble. Et on voit avec les jeunes prêtres combien c'est important. Aujourd'hui, c'est très difficile de vivre tout seul. Donc, je sais qu'on a l'abbé Igoné ici depuis des années seul. Et donc, je remercie surtout les fidèles pour votre soutien et pour votre encouragement. Et j'espère que vous allez lui bien occuper, qu'il soit trop occupé pour faire autre chose. Donc, avec l'enseignement, avec les confessions, avec tout ça. Il faut qu'il soit bien occupé. Pas fatigué, mais bien occupé. Donc, voilà. On a envers 150, 160 séminaristes chaque année dans nos deux séminaires. Et je vous salue surtout de la part de l'abbé Alexis Pirot, qui m'a demandé deux fois et qui m'a envoyé une lettre aussi pour la communauté, pour leur remercier, pour leur prière. dans ses études au séminaire de Wurzbach. Donc je ne sais pas s'il y a un ou deux questions, lesquelles peut-être c'est des choses plus intéressantes ou des questions.
Monsieur l'abbé, quand aurons-nous un évêque qui sort de votre fraternité?
Un évêque d'une autre fraternité. Je pense qu'on ne va jamais avoir un évêque. Parce que, en fait, ce n'est pas vraiment normal pour un évêque de faire partie d'une communauté. Donc, c'est-à-dire que normalement, quand un évêque était dominicain et il est pris pour être évêque, il devient évêque ou pour prendre une diocèse, et ça va être très difficile pour un de nos prêtres, ou de travailler comme membre de la curie romaine. Donc je peux imaginer ce scénario-là, où il devient le secrétaire d'une commission et donc il est évêque, mais évêque diocésain, ça sera très difficile pour les fidèles d'accepter un évêque qui dit que l'ancienne messe et qui fait toutes les confirmations de jour au lendemain dans l'ancienne rite. Et je pense que pour tous nos prêtres, ce sera vraiment quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Nous, on se rend compte de notre responsabilité déjà devant Dieu pour les fidèles qui sont confiés à nous. Mais quand vous imaginez d'être un évêque d'une diocèse, vous êtes vraiment responsable pour chaque prêtre, chaque professeur qui enseigne dans une université catholique. Vous allez répondre au bon Dieu, au jour de jugement, pour chacun. Et c'est une responsabilité que je pense aujourd'hui, les bons évêques, je ne sais pas comment ils font, parce qu'il y a tellement des questions de conscience, de comment avancer les choses, qu'est-ce qu'on peut accepter pendant une période, avant qu'on peut faire mieux, c'est doit être vraiment une vraie difficulté. Priez pour nous aussi. Donc en juillet, je serai plus le supérieur, donc on va élire un nouveau supérieur général. Et donc c'est une été qui est importante pour nous, qu'on fait des bons choix et qu'on a un bon chapitre général. Bon, merci beaucoup. Merci.